cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe le 19 mars 1992 à Saint-Jeudard.
Fêter Saint-Joseph, patron du travail. Donc du travail de charpentier et du travail intellectuel. Il faudrait demander à Saint-Joseph de nous faire un cours de philosophie. Ce serait passionnant. Je vous affirme, il montrerait que l'intelligence est au bout de ses doigts et au bout de ses instruments. Il montrerait combien c'est important d'être lucide, d'être parfaitement actué, finalisé dans tout ce qu'on fait. Puisque ce n'est humain que lorsque c'est conscient et actué, finalisé. Et je crois que Saint Joseph, homme juste, craignant Dieu, que la sagesse de Dieu avait préparé pour être l'époux de la Vierge Marie, c'est quelque chose quand même. C'est lui qui doit nous aider à maintenir dans notre vie toujours ce lien difficile entre ce que nous essayons de comprendre au plan philosophique, au plan métaphysique, et le travail manuel. Le travail d'entretien du couvent. Même l'électricité. Saint-Joseph nous aiderait à comprendre et doit nous aider. Vous l'invoquez beaucoup. Oui. Quand on me dit, et c'est vrai, on ne voit pas très bien comment les frères qui font de la philosophie réaliste sont si peu réalistes dans leur travail. On attend ça de temps en temps. Des gens, des personnes de la base, on dirait, qui voient bien ce que c'est le réalisme du travail. Ça met du temps. Et passer de l'intelligence au cœur, passer du cœur à la main, à notre sensibilité, à tout ce que nous faisons. C'est vrai, c'est l'Esprit Saint peut le faire très vite, puisque les dons de l'intelligence, le don de crainte qui nous fait respecter la matière, puisqu'elle vient de Dieu, qui nous fait presque l'aimer. Le don de conseil qui nous permet de choisir tous les instruments qu'il faut. Le don de piété qui enveloppe tout. Avec une extraordinaire douceur et force aussi, puisque l'action de l'Esprit Saint, c'est toujours fortitaire et suavitaire. Et je crois que le travail de Saint Joseph implique toujours cette très grande tendresse et cette très grande force. Alors, on continuera tout à l'heure de parler de Saint Joseph. Maintenant, nous allons, en demandant à Saint-Joseph de nous aider, entrer, continuer cette étude un peu aride. Je dis ça pour ceux qui débarquent dans le cours en disant « ils parlent une langue très curieuse ». C'est vrai, c'est la philosophie et la métaphysique ont quelque chose de très particulier. Très près du chinois, on est. Pour nous, nous étions arrivés, si vous vous souvenez, à voir dans cette découverte de ce que représente la fin, ce qui est au terme de ce qui est. Ce qui est au terme de ce qui est l'être en acte, qui nous permet immédiatement de comprendre que tout ce qui n'est pas achevé, terminé, est en attente. Le monde physique est en attente. Les gémissements du monde physique, hein, dont parle saint Paul. Et c'est ça qu'on traduit au point de vue philosophique en disant cette potentialité qui se comprend à partir de l'acte. L'être en acte, pour nous, c'est notre existence. Nous existons. Puisque le philosophe s'intéresse à l'homme, s'intéresse à Saint-Joseph, vous voyez. Parmi les créatures et les hommes, Saint-Joseph représente un type de personne très achevée et merveilleux. On peut discuter, ainsi savoir si Saint-Jean est un type d'homme plus parfait que Saint-Joseph. Il ne faut pas les opposer. Il faut voir que tous les deux sont dans une très grande lumière de sagesse. Quand je dis j'existe, il faut prendre conscience de ce que ça représente. L'exister, qui est quelque chose qui ne nous appartient pas. Ça nous a été donné. C'est quelque chose en même temps qui est le plus nous-mêmes. Exister est présent à tout nous-mêmes, qui est fondamental à l'égard de toutes nos activités. C'est une évidence, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus mystérieux en nous. Et si on saisissait parfaitement notre existence, on verrait Dieu. On peut dire ça au point de vue métaphysique. Parce qu'on saisirait notre existence dans ses limites et dans son acte. Mais je n'ai pas une connaissance claire. C'est évident que j'existe. Mais saisir la profondeur de mon exister, qui implique toute une opacité, l'exister de mon corps, l'exister dans ma sensibilité, c'est très opaque. Et l'exister dans ce qu'il y a de plus intime en moi, ma pensée, ma connaissance, mon amour, c'est très intérieur, et ce n'est pas mon exister premier, puisque pour penser, pour aimer, il y a quelque chose en de l'exister touche à cette intériorité et à ce quelque chose de fondamental. J'existe et en moi-même, il y a une potentialité à ne pas exister. Je pourrais très bien ne pas exister. Et le monde serait le même. Faut pas croire que le monde changerait si je n'existais pas. Et tous mes voisins continueraient d'exister, même si je n'existais pas. Ce serait très malheureux si je n'existais pas. Pour moi, pour les autres, je n'en sais rien. Vous voyez, ce caractère de précarité de l'exister, de mon exister, et en même temps la profondeur. Donc, bien saisir cette première modalité de l'être en acte. J'existe, je suis. Descartes disait « Je pense, donc je suis ». Nous nous disons « J'existe ». Évidemment, pour dire « J'existe », il faut penser. Mais quand je dis « J'existe », je sais que mon exister est plus profond que ma pensée. Puisque pour penser, il faut exister. Et je vois autour de moi des réalités qui existent et qui ne pensent pas. La vache. La lune. Le soleil. Ça ne pense pas beaucoup. Mais ça chauffe. Ça existe et ça ne pense pas beaucoup. Extraordinaire de recevoir ça, parce qu'alors on comprend d'une certaine manière comment on peut tomber dans un positivisme. La seule chose intéressante, c'est que ça existe, la pensée. Ah, oui et non. Vous voyez, il y a tout de suite ces deux aspects qu'on saisit. Et que chacun d'entre nous nous font saisir la relation entre l'exister et la pensée. Qu'est-ce qui est premier ? L'exister ou la pensée ? Si je ne pensais pas, je ne pourrais pas découvrir mon exister. Alors, mon exister aurait-il encore un intérêt? Est-ce que c'est intéressant pour la lune d'exister? Ou elle n'existe que pour nous? Le soleil, est-ce que c'est intéressant pour lui d'exister? Selon les vieilles traditions, et ça revient. Il y a actuellement dans le monde des adorateurs du soleil. Vous savez, certaines sectes qui existent en Suisse. Ça, je le sais. Mais en Amérique aussi. Si ça existe en Suisse, ça existe en Amérique. Parce que ça doit venir de là-bas. Il y a le flux, le reflux. Regardez. Les adorateurs du soleil. Il faut être là tous les matins pour adorer le lever du soleil. Et on m'a dit ça des personnes qui sont venues ici au début. On dit, oh, c'est bien ici parce que vous pourrez apprendre aux jeunes d'adorer le soleil. En ville, c'est difficile, mais ici, on peut. Et qu'est-ce que ça représente pour le soleil d'exister? Est-ce que ça a un certain intérêt pour le soleil? Il existe brutalement. Vous voyez, c'est intéressant de voir l'exister brut. l'exister. Et je pense. Et je vois que dans toute l'histoire de la pensée européenne, et je peux dire mondiale, fondamentalement, c'est la relation de pensée et être, être et penser. Et c'est l'ordre qui existe entre penser et être et penser, qui donne tout de suite deux philosophies totalement différentes. Alors c'est intéressant de tâter le pouls des philosophes, de tâter le pouls d'une culture, d'une civilisation. Est-ce qu'actuellement, est-ce l'être, l'exister, qui est premier, ou la pensée? Pour Platon, pour Aristote, pour Thomas d'Aquin, pour Heidegger, pour Marx, toujours le même problème. Si on creuse suffisamment, il y aura toujours, à un moment donné, cette relation entre pensée et l'exister. Donc on touche là un problème très radical qu'on doit essayer de comprendre. C'est important. Comment saisir ce lien? Il y a une relation très nette que je porte en moi, j'existe, je pense. Pendant toute la nuit, si j'ai dormi, j'ai continué d'exister, hein, tout en dormant. Et puis je me suis réveillé. Et en me réveillant, j'ai pensé. Et j'ai fait ça très simplement. Je ne suis pas extasié devant cette chose étonnante. Mon lever de soleil à moi. J'ai pensé. J'étais illuminé intérieurement. Je suis passé de l'un à l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, seconde modalité de l'être en acte. Le vrai. La vérité. Je touche là, non pas une opposition entre l'exister et le vrai, mais je touche là deux modalités de l'être en acte. L'éléphant, le petit pygmée. Simple, mais historiquement c'est comme ça que ça s'est passé. dit ça avec beaucoup de poésie et d'art, mais il constate que l'animal n'est beaucoup plus riche que l'homme. La pauvreté est comme naturelle à l'homme, comparativement aux autres animaux. Il naît dans la nudité, dans la fragilité, il naît dans la petitesse. Il a besoin de sa mère bien plus que tous les autres animaux. Il a besoin de son père bien plus que les autres. La famille, oui, ça existe un tout petit peu chez les animaux, mais très peu. Ça existe chez les lions. Famille royale. Humaine va se traduire en premier lieu par une intelligence qui domine, qui fabrique, qui fait, qui réalise. C'est très important de comprendre ça, parce que le premier pli de mon intelligence au plan génétique, au plan de la perfection, le premier pli de mon intelligence, c'est une intelligence qui domine, qui veut dominer, qui est capable de dominer. C'est une intelligence qui est capable d'imposer à une matière une nouvelle figure, une nouvelle forme. De fait, le petit gosse qui s'amuse avec des petites autos, avec un mécano, qu'est-ce qu'il fait? Il construit. Il fait quelque chose. C'est curieux que le premier pli de l'intelligence, c'est de dominer le monde. Alors vous comprenez que ce premier pli, dès que je suis fatigué, je reviens toujours à ce qu'il y a de plus fondamental en moi. Dès que je suis dans l'anxiété, dès que j'ai un peu peur, je reviens à ce qu'il y a de plus fondamental en moi. Ça me sécurise. Le perso sécurise. Très bien. Le complexe océanique. Océanique, c'est le désir de retourner au berceau, d'être materné par tous les gens qui sont autour de nous. Je suis malade. Je ne peux pas me tenir debout. J'ai besoin du berceau. C'est quelque chose de très très fondamental en nous. Il ne faut pas croire que ça n'existe que pour le voisin, pour chacun d'entre nous. Il y a à être victorieux de cela, dépasser ça. Voyez, ce retour au berceau, ce retour à la première activité fondamentale. Affectivement, c'est le berceau. Intellectuellement, c'est la domination. Les deux extrêmes. Et très souvent, la domination n'ayant pas réussi, on retourne vers le berceau. On a eu des échecs. On n'a pas dominé. On a raté son métier. On n'est plus bon qu'au berceau. Le berceau des codes naturels. Ah oui, il est beaucoup plus code naturel à nous que la domination. Il faut déjà, c'est le petit gosse, il est déjà debout quand il joue. C'est curieux, voyez, ces deux aspects tout à fait fondamentaux qui sont en nous et qui expriment notre conditionnement radical. Notre conditionnement radical, c'est le berceau. L'affectivité. On est enveloppé. C'est si doux. On est porté. C'est si doux. Et Saint-Joseph en face de ça. Hein. Dans l'enfant Jésus, il n'y avait pas le complexe océanique. Non, non, non. On ne peut pas rejoindre. Et Saint-Joseph admirait cette force étonnante de cet enfant. Parce qu'il y a de la force. pas saint parce qu'il domine la matière. Il n'est pas saint parce qu'il est travailleur. Il est saint parce qu'il a dominé son travail. Il est saint parce qu'il a su dépasser ce que représente la joie du travail pour l'offrir à Dieu. C'est étonnant, ça. Eh bien, je crois que, au plan philosophique, on doit réfléchir sur le dépassement d'une intelligence qui, au point de départ, est une intelligence qui aime de dominer. Tous, chacun d'entre nous, on aime de dominer. On cherche toujours un plus petit que soi. Et quand on ne l'a pas trouvé, on retourne au berceau. Et on cherche toujours à dominer quelqu'un de plus faible que nous, quelqu'un de plus dépendant que nous, quelqu'un de plus potentiel, plus radicalement en puissance. Et c'est une conquête merveilleuse de l'intelligence de dépasser ce premier moment d'une intelligence de travailleur, d'une intelligence qui veut dominer, à une intelligence contemplative. Ce qui est tellement important pour nous, et que chacun d'entre nous, on doit pouvoir faire, ce passage de l'intelligence veut dominer d'une intelligence de travailleur à une intelligence contemplative, une intelligence réceptive, une intelligence qui sait accueillir et qui, avant de modifier, respecte l'autre. On comprend très bien ce passage si étonnant. L'éveil de l'intelligence comme intelligence, ce n'est plus l'intelligence liée à la main, c'est l'intelligence qui peut dépasser cette alliance si fondamentale, l'intelligence liée à la main, une intelligence qui peut se tenir par elle-même grâce à cette attitude de réceptivité vis-à-vis du réel. Alors c'est l'intelligence qui commence à découvrir l'exister. Voyez, c'est cette chose très étonnante. L'intelligence qui découvre que le monde existait avant que je le transforme. Ce moment d'admiration. Le monde existait avant que je transforme. Et j'ai la nostalgie, à la fin de ce 20e siècle, de trouver des lieux qui n'ont pas été modifiés par l'homme. De trouver des lieux qui sont pure nature. Vous voyez, le rêve de Jean-Jacques. Robin Crusoe, trouver un lieu où personne n'a encore été. On a cette nostalgie quand on est en montagne, qu'on est sur le bord de la mer, la côte sauvage, tous les Bretons, cette nostalgie. Ils veulent trouver ça, et c'est pour ça qu'ils l'ont dénommé côte sauvage. Pour eux, ils ne l'ont pas faite. Ils l'ont accueilli. des océans. C'est vrai, il y a une nostalgie terrible de ça aujourd'hui. De sortir de ce monde fabriqué et très souvent sophistiqué qui ne donne plus rien du tout. Nietzsche disait ça, alors lui il le disait à sa manière. Dans une ville, vous voyez, il avait une formation biblique, faut pas oublier. Croyant au début, protestant et croyant. La ville pour lui, c'est la Babylone. Elle ne parle que de l'homme. Il faut aller au désert. Il faut aller au sommet des montagnes. Il faut aller auprès de l'océan. Pour que l'homme s'efface. Que l'homme disparaisse. Alors que partout ailleurs, il est présent. Dans toutes les affiches, l'homme est présent. Dans toutes les conduites d'eau, l'homme est présent. Dans l'électricité, l'homme est présent. Dans la télévision, l'homme est présent. Il veut tout le temps être présent. Manière de dominer. Il veut être présent partout. Alors comprends qu'on dit la Babylone. C'est la toute-puissance de l'homme. Dépasser cela pour découvrir ce qui est avant l'homme, antérieur à l'homme, et qui me dit quelque chose de secret. Le désert me dit toujours quelque chose de secret que je connais mal, que j'écoute, que je reçois. La haute montagne, l'océan, le désert, c'est rare un désert où l'homme n'a pas encore passé. C'est pour ça que j'ai la nostalgie du Grand Nord. Les Canadiens ont cette nostalgie. Parce que là, tout est blanc. L'homme n'a rien sali. C'est une nostalgie effrayante. Et derrière cette nostalgie, il y a quelque chose de très beau. La découverte d'une intelligence contemplative. D'une intelligence qui rencontre quelque chose d'unique. Un secret. Le secret est toujours quelque chose d'unique. À la différence du banal, de ce qui est déversé journellement à travers les communications, à travers la presse, c'est banal. C'est très curieux. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très important pour nous de comprendre ce premier prix de l'intelligence qui est de dominer. C'est pour ça que tant de philosophies disent que la connaissance est antérieure à l'exister. Puisque quand je domine, c'est mon intelligence qui domine et c'est antérieur à l'exister. Et combien de philosophes ne comprennent l'intelligence que dans cette capacité de dominer, anti-contemplative, l'efficacité, le primat de l'efficacité. Mais ce n'est pas l'intelligence dans ce qu'elle a de plus profond. Découvrir ce qu'il y a de plus profond dans l'intelligence, c'est sa capacité de recevoir la réalité. Ce qui a été la grande admiration d'un Aristote. Platon n'a jamais connu ça. Il n'a jamais connu cette admiration. Et combien aujourd'hui connaissent ça ? Très peu, très peu. Alors que c'est cela l'intelligence. Être intelligent, c'est capable de recevoir l'autre tel qu'il est. Et non pas tout de suite lui imposer nos idées, vouloir le dominer. Je vous ai déjà raconté cette petite histoire. Psychanalyste, ce dialogue où on a porté ses amis. Première réflexion quand ils disparaissent. Oh, un tel aurait besoin d'une petite analyse. Comme il en aurait besoin. Le psychanalyste ne regarde les hommes qu'avec le désir de les psychanalyser. C'est plus fort qu'eux. Et combien la psychanalyse a pris possession du cœur de l'homme aujourd'hui ? La psychologie. La maladie du psychologue, c'est de vouloir guérir tout le monde. Vous voyez, c'est la parole de l'Évangile. Tu vois la poutre et la paille. Regardez ce qu'il y a d'unique en chacun. Recevoir. L'intelligence contemplative, l'intelligence est naturellement contemplative. Et si l'intelligence contemplative ne s'éveille pas, il n'y a pas de vraie contemplation. Même mystique, saint Thomas le dit. C'est ça qui est extraordinaire, dans cet éveil de l'intelligence, dans cet état d'admiration. Dans cet état de réceptivité, elle reçoit. Et alors à ce moment-là, on comprend que l'exister est antérieur à la pensée. Mais on ne le comprend que là. Et si on n'a pas compris là, c'est toujours l'intelligence qui domine. Et quand on coupe l'intelligence, de l'affectivité, du cœur. Notre intelligence est-ce une intelligence qui veut dominer ? Il faut que l'intelligence se découvre dans cette réceptivité pour entrer dans cette intelligence philosophique qui reconnaît le primat de l'exister sur la pensée. Je crois que c'est le propre de la philosophie aujourd'hui. Dépasser ce primat de l'efficacité. L'homme est en train de se perdre à cause de ce primat d'efficacité. Alors où il cherche l'efficacité, où il retourne au berceau. Dans une douce affectivité. Vous savez, ce que je vous ai déjà dit plus d'une fois, ce que dit le père de Haut, et que j'aime beaucoup comme expression, bien distinguer le ronron du chat auprès du feu et le vol de l'aigle. Le vol de l'aigle est contemplatif, il est attiré par le soleil. Et le ronron du chat auprès du feu n'est pas contemplatif, c'est le retour au berceau. Et le retour au berceau n'est pas contemplatif. Le contemplatif, c'est celui qui est victorieux de l'efficacité. C'est celui qui dépasse l'efficacité et met toute son intelligence au service de l'amour. Mais met toute son intelligence au service de l'amour. Je crois que c'est très important de saisir ce moment de dépassement de la domination et d'efficacité. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut dominer. Ah, ça, c'est courant. C'est la monnaie courante. C'est la rivalité dans la domination. C'est la rivalité dans l'efficacité. C'est pour ça qu'est le primat de l'économie. On veut construire un monde sur l'efficacité. Alors il faut sauver l'homme, sauver l'intelligence de l'homme pour sauver la contemplation. Pas pour rien, vous voyez, que la foi est reçue dans l'intelligence. Il n'y a pas d'amour divin sans la foi. Impossible. Et quand notre intelligence est uniquement tournée vers la domination et vers l'efficacité, elle rejette la foi comme un corps étranger. Parce que ça devient un corps étranger. Il n'y a plus de capacité pour la foi. Et ça provient de ce fait que notre intelligence est restée prisonnière de son premier mouvement, de son premier comportement, d'une intelligence qui veut dominer, d'une intelligence qui aime de dominer. Je comprends très bien qu'elle aime de dominer, mais ce n'est pas l'intelligence. Et alors, au point de vue chrétien, si je sais que la foi est reçue dans l'intelligence, il n'y a plus possibilité de recevoir la foi si on a une intelligence purement organisatrice en vue de la domination. Une intelligence qui demeure à un niveau psychologique. Elle ne peut pas recevoir la foi. La foi reste quelque chose d'étrange. Il faut découvrir cette intelligence réceptive, cette intelligence capable de se taire, de ne pas tout de suite donner son avis pour dominer. Une intelligence réceptive, ce premier moment de l'intelligence qui découvre le primat de l'exister sur elle-même. Pour être intelligent, il faut connaître ce qui est. C'est ça l'intelligence, c'est connaître ce qui est. Ce n'est pas inventer des tas de choses d'ordre du possible. Ce n'est pas rêver dans le possible. C'est regarder ce qui est. Me regarder et regarder les autres. Mais me regarder en tant que j'existe. En tant qu'il y a en moi quelque chose qui ne vient pas de moi. Qui est antérieur à mon avoir. À ma propriété. Vous ne pouvez pas être propriétaire de votre exister. C'est curieux, hein. Vous ne pouvez pas être propriétaire de votre exister. Votre exister vous dépasse. Mon exister me dépasse. Alors je saisis cette relation nouvelle, toute nouvelle, mon intelligence face à ce qui existe. Et je dis que quand mon intelligence reconnaît ce primat de l'exister, je suis devant le problème de la vérité. La vérité ne peut exister, ne peut se dévoiler que lorsque j'ai découvert ce primat de l'exister sur ma pensée. Parce que tant que je reste dans une intelligence d'efficacité créer un monde, une culture qui n'est plus qu'une culture de domination et d'efficacité, où la contemplation est bannie. C'est une culture qui ne sait plus ce que c'est que la vérité. On est dans une relativité absolue. Tous les possibles peuvent se faire. On ne dit pas tout est possible à Dieu, on dit tout est possible à l'homme. Mais on est passé de l'autre côté de la barrière. Alors qu'est-ce que c'est que l'être en acte selon cette modalité particulière de la vérité, du vrai? C'est reconnaître que la réalité, réalité, si fragile qu'elle soit, si petite qu'elle soit, a quelque chose à dire. Que toute réalité, du fait même qu'elle existe, est le bien de mon intelligence. Et que mon intelligence est capable de recevoir ce quelque chose qui la dépasse, qui existe, qu'on a déjà est en face de cette réalité, dans cette attitude de réceptivité, d'admiration, de contemplation. Et ceci à tous les étages, à tous les niveaux. Et en définitive, moi-même, je me connais, et je me connais si mal. Et celui qui croit se connaître se connaît si mal. On a une telle difficulté à se connaître sans vouloir tout de suite se modifier. D'abord se connaître, toutes les richesses qui sont en nous. Vous voyez, pour l'éducateur, par exemple, Saint Jean Éducation, c'est comprendre qu'il faut d'abord connaître celui qu'on éduque. Parce qu'on n'éduque pas de la même façon un petit chat et un chien. Et entre chacun, il y a plus de différence qu'entre un chat et un chien. Il faut connaître les qualités qu'on peut saisir, qu'on peut développer. Vous voyez, ce primat d'exister sur l'intelligence, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Parce que c'est toute la perspective du réalisme. Alors que si je vois le primat d'une intelligence qui domine, qui s'impose, c'est une intelligence, lorsqu'elle met ça en absolu, qui reste dans un idéalisme. C'est très juste pour le travailleur, c'est très juste pour l'artiste, mais l'artiste n'est pas tout l'homme. L'artiste est une partie de l'intelligence de l'homme, une partie de son cœur, ce n'est pas tout l'homme. Le jour où l'homme croit que l'artiste qui est en lui, c'est tout lui-même, il y aura une vengeance terrible en lui de retourner au berceau. Ça, c'est la vengeance de vouloir identifier l'homme avec l'artiste, parce qu'il sera fatigué. Une fatigue qui dira substantielle, personne ne peut en sortir. C'est très curieux, ça. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui, hein. Si on est attentif, on voit ça. Il y en a combien qui veulent retourner au berceau? À peine réveillé, continuant de dormir, on est si bien. Et alors on arrive à dire, extraordinaire de voir ça. Une humanité qui est éveillée pour dormir. Un jour, ce sera un grand dortoir. Et puis, c'est pour se récupérer. C'est pour se récupérer. Retour au berceau. Se récupérer. On ne peut pas se récupérer autrement. Alors, on a cette nostalgie-là. Alors, qu'est-ce que c'est que le vrai ? Je vois tout de suite, et ça c'est très particulier, c'est que je vois qu'il y a le vrai et la vérité. Est-ce que je peux identifier ce que j'appelle vrai et ce que j'appelle vérité ? Si je réfléchis bien, je vois que le vrai, c'est justement la réalité existante. En tant qu'elle est capable d'être le bien de l'intelligence, en tant qu'elle est capable d'actuer l'intelligence, en tant qu'elle est capable de déterminer l'intelligence, c'est ça le vrai. Et la vérité, au contraire, je la possède au-dedans de moi-même, au plus intime de mon intelligence. C'est vrai, j'ai jamais rencontré la vérité. Oui, sauf des statues. La vérité, je la possède en moi. Quand je vous dis ce que je vous dis maintenant, c'est vrai. Je peux très bien dire ça. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord. Hein. Tant que vous n'avez pas compris ce qu'est l'intelligence réceptive et contemplative, vous direz, je ne suis pas d'accord. Mais le jour où vous découvrez ce dépassement de l'intelligence par rapport à l'efficacité, et que l'intelligence doit d'abord recevoir, écouter, admirer, vous comprenez à ce moment-là que je puis dire ce que je vous dis, c'est vrai. Je reconnais que ma vérité provient de ma connaissance. Elle est dans ma connaissance. Et une connaissance qui reconnaît le primat de l'exister sur ma connaissance intellectuelle.